Merci beaucoup Samuel. Donc ce matin on nous a dit qu'on était aveugle à notre environnement visuel, puis sourd à un environnement sonore, etc. Et bon, Samuel, vous mettez vraiment l'accent sur le fait, effectivement, qu'on baigne dans des écrits et des écrits numériques maintenant, et pourtant il y a toujours ces inégalités sociales, bien évidemment, qui nous touchent profondément. Hein, puisque c'est aussi notre mission en tant qu'enseignant d'essayer de faire en sorte que les gens apprennent à écrire, que nos élèves en tout cas apprennent à écrire. Alors là, vous nous avez montré effectivement des outils donc qui peuvent aider à écrire. Alors dans un domaine très particulier, puisque vous avez montré la création scientifique, le domaine de recherche, mais bien évidemment, c'est des outils que l'on peut s'approprier dans tous les domaines. Alors je vais donner très rapidement la parole, voilà, à la salle, hein, de façon à faire des échanges fructueux.
Bonjour. Alors, je suis un peu surprise, en fait, de l'usage que vous avez présenté de ces outils. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés en classe. On a des exemples. Bon, alors, c'est dans des cadres particuliers, mais par exemple, en lycée, dans les enseignements d'exploration, il y a des usages de ces outils type PiratePad avec justement la constitution de dossiers à plusieurs, la collaboration autour d'un texte qu'on va générer à plusieurs. Ce qui m'a troublée, en fait, mais je pense que c'est lié peut-être à la solitude du chercheur, c'est que vous utilisez précisément des outils collaboratifs et le plus souvent, ce qui est montré, c'est que vous les utilisez un peu seul. c'est vrai que c'est étrange à quel point l'outil facilite le travail à plusieurs, mais son appropriation se fait toujours dans une pratique finalement très individuelle. Alors je voulais juste, mais c'est à titre plus de témoignage justement, puisque vous parliez de ça, témoigner d'une pratique par exemple qu'on a pu voir dans un collège à Paris. C'est un collègue qui a mis à la disposition des élèves pour la préparation d'un dossier histoire des arts un PiratePad où les élèves vont compiler, ajouter, et ce qui est très intéressant, c'est la mobilité de la page, c'est-à-dire qu'on peut s'insérer, intervenir en même temps, et donc il les fait travailler en présentiel ensemble, mais là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bavardage, l'échange passe par l'écrit. Vous voyez, on est dans de la gestion de classe extrêmement contrainte, silence absolu, etc. Par contre, on s'oblige à passer par l'écrit pour verbaliser des choses comme ça. Et effectivement, ça va donner... Alors, parfois, vous avez pas précisé, mais il y a une zone de chat, voilà, un peu en bas. Et il y a une zone principale où on écrit. Et donc, il y a ce qui passe dans le chat. Il y a la gestion de l'écrit qu'on va garder. Il y a la présence de l'enseignant qui peut passer voir ce qui se passe. Et dire, eh oh, là ça suffit d'aller surfer, reprenez un peu le fil du travail. Et c'est des modalités extrêmement intéressantes aussi de construction des... vous rentrez pas là-dedans parce que vous êtes au niveau d'une écriture scientifique, mais de construction de la phrase, par exemple. D'apprendre à éviter... l'anacolute, c'est-à-dire quelqu'un commence une phrase et puis moi j'ai envie de mettre une suite, mais en fait ça colle pas grammaticalement. Et c'est un outil vraiment très très intéressant de ce point de vue, de ce point de vue-là. Mais peut-être est-ce lié effectivement à votre statut de chercheur, le fait que ce soit pas une utilisation en collaboratif.
Merci beaucoup. Bah, je pense que c'est un usage qui est extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Enfin, et je trouve ça très bien que ce soit fait. Je connais assez peu en fait ce qui se fait effectivement dans l'enseignement, en tout cas dans l'enseignement secondaire, avec ces outils. Et je suis très heureux de voir que ça l'est. En réalité, enfin, juste pour vous répondre, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste pour vous répondre sur la question de collaborative. Oui, le travail de chercheur, c'est un travail qui est relativement solitaire, a fortiori quand on travaille sur une thèse qu'on est censé écrire tout seul, puisque, enfin, voilà. Mais certains des usages que j'ai montrés, celui-ci par exemple, donc l'usage de prise de notes collaborative pendant une conférence. Donc là, j'ai pas tout. Enfin, en gros, on a perdu certaines des couleurs sur la première partie de cette conférence. Mais c'était une conférence où il y avait, disons, une cinquantaine de personnes dans le public et jusqu'à 10 participants au PiratePad qui écrivaient collaborativement et là en temps réel. Donc on avait une véritable collaboration. Après, effectivement, ça c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre, qui est pas commun dans la recherche, puisque en général on travaille sur des textes à deux, maximum trois ou quatre auteurs seulement. Donc l'usage que j'ai montré de Word était bien adapté à ça, mais quand on travaille sur des textes comme ça nous est arrivé à une dizaine d'auteurs, et c'est le cas quand on a dû faire une proposition il n'y a pas longtemps, qui était un projet de recherche pour obtenir une bourse, on a écrit, alors je sais plus où c'est, je voulais le montrer aussi, mais avec Google Doc, donc qui permet aussi d'écrire tous ensemble quelque chose, un document dont j'arrive pas à savoir le nombre de... Enfin, qui est un document qui, en gros, à la fin, faisait 50 pages, quelque chose comme ça. 43 pages, qu'on a écrit à 10, collaborativement. Et là, on était tous ensemble, parce qu'on avait seulement un mois pour l'écrire, on était tous ensemble sur le Google Doc, et on écrivait en permanence ensemble, enfin en permanence, on écrivait régulièrement ensemble sur le Google Doc, et on corrigeait les phrases des autres, et on ajoutait, etc. Donc, il y a ce genre d'usage, mais en général, ça se restreint quand même à des collaborations, effectivement, à deux, trois, donc moins des collaborations en classe. Cela dit, je pense que, encore une fois, on peut se les approprier pour des collaborations plus restreintes, ou pour son usage personnel, et quand on est dans de l'écriture littéraire, par exemple, ou artistique, c'est des outils qui peuvent être extrêmement précieux pour un schizophre.
Oui, bonjour. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Yaël. Donc, vous avez commencé avec l'idée la question de la littératie, de la fracture numérique ou la double fracture numérique, le fait que maintenant c'est plus temps, enfin, ouais. Pas seulement une question d'accès, mais également de pratique d'écriture ou de compétences d'écriture. Et en disant effectivement, c'est pas forcément les mêmes pratiques, donc sans doute les mêmes compétences d'écriture qui sont attendues. Et puis vous avez montré des outils collaboratifs. Et là, je suis resté un petit peu sur ma faim. Alors d'abord, en tant que chercheur, moi j'utilise beaucoup donc Etherpad, qui est en fait la version générique de PiratePad. On les utilise dans les réunions de recherche systématiquement. On fait un compte rendu en fait en live. Et vous en avez donné une vision un peu idyllique, donc je voudrais nuancer un peu, parce que ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes dans les processus de négociation, quand on écrit comme ça en synchrone à plusieurs, et quand on commence à écrire une phrase et que son collègue est en train d'effacer ce qu'on vient de mettre, de supprimer, etc. Donc ça pose beaucoup de difficultés en termes de négociation. Et il se trouve que je m'occupe d'un projet qui s'appelle Pratique d'écriture numérique en Picardie, que nous avons notamment présenté avec Alexandra, enfin en partie... lundi après-midi, et on expérimente parmi les différentes modalités d'écriture numérique qu'on a mises en place, il y a l'écriture collaborative, et donc on expérimente un module, notamment en collège, avec cet outil-là, Etherpad, et justement on se pose la question on voit bien qu'il y a d'autres compétences qui sont mises en jeu, hein, quand il y a trois ou quatre collégiens qui doivent écrire ensemble un texte, et la façon dont se négocie en fait tout le processus d'écriture. Et donc, je m'attendais un petit peu, je suis resté un petit peu sur ma faim, je m'attendais à ce que vous arriviez, puisque vous disiez, voilà, il y a des choses qui changent. Bah oui, d'accord, mais alors, en termes de compétences, en termes de littératie, qu'est-ce qu'il faut maintenant apporter, notamment dans le secondaire, mais pas simplement, dans le supérieur aussi, donc aux élèves et aux étudiants, pour qu'ils arrivent à mieux écrire collaborativement, et notamment, effectivement, là, il y a une grande transformation, le fait qu'on puisse écrire ensemble, mais en même temps. Hein, la dimension synchrone change beaucoup, beaucoup de choses dans la démarche d'écriture. Alors évidemment, c'est plus une remarque, parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément expérimenté ça, vous, sur le terrain, c'est pas votre objet de recherche premier, mais la question, effectivement, je pose cette question-là, des compétences d'écriture collaborative, qui sont des compétences nouvelles maintenant, et qui, à mon avis, qu'on doit apporter, notamment dans l'enseignement secondaire.
Non, encore une fois, je suis complètement d'accord. Enfin, c'était le sens de mon avertissement. Effectivement, j'ai pas fait d'empirie sur ces choses-là. Je parle de mon expérience personnelle qui est plutôt justement positive par rapport à ça. Chaque fois que j'ai utilisé des Etherpads, enfin des pads en général en ligne, ça s'est assez bien soldé où les gens avaient. Mais peut-être parce que déjà c'était des gens qui étaient assez habitués à l'écriture numérique, enfin qui étaient beaucoup de blogueurs, de Twitter, de gens qui travaillaient déjà avec des outils collaboratifs, enfin collaboratifs ou du moins d'échange, etc. numérique, et par ailleurs dans un monde social où il y a déjà des normes extrêmement consensuel sur la question de, par exemple, quand on prend des notes dans une conférence, on respecte, enfin, il y a un certain ensemble de normes, on respecte ce que dit la personne, donc on essaye de pas faire de contresens, on essaye de noter au plus possible des mots précis, du coup, on va accepter, des expressions précises qu'a donné l'intervenant, qu'a utilisé l'intervenant, et du coup, on va accepter beaucoup plus facilement Je pense, hein, le fait que quelqu'un d'autre efface ce qu'on a écrit pour écrire quelque chose qui est plus précis, parce que justement on n'a pas forcément eu le temps d'écouter, etc., ou on n'a pas forcément écouté assez attentivement, et du coup je pense que c'est effectivement des endroits un peu idylliques. Après, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, la question des compétences nécessaires pour la synchronie est très importante, et là à mon avis ça a lieu, enfin c'est aussi la question de savoir quelles sont les normes qui régissent ces espaces là en fait, c'est-à-dire quelles règles on accepte quand on travaille collaborativement. Et je crois que là, du coup, l'écriture synchrone, c'est quelque chose qui est effectivement assez nouveau. Pour le coup, enfin, autant un traitement de texte, finalement, c'est que la numérisation d'une pratique ancienne d'écriture, autant l'écriture synchrone, j'ai pas d'exemple, en fait, avant le numérique. Voilà, c'est impossible avec le papier, très clairement.
Maintenant, on voit en entreprise, c'est pratiqué de plus en plus. Ouais. Dans les réunions, tout ça, maintenant, sur ce type d'outil-là, massivement utilisé.
Bah, du coup, la question c'est comment. Bah, il faut. Je pense qu'il y a des normes qui vont émerger aussi à force de l'utiliser. Et je pense qu'à force, dans les pratiques, dans des groupes d'interconnaissances particuliers, il y a des normes qui émergent sur la manière dont on l'utilise. Ou alors, ça pose vraiment tellement de problèmes et tellement de conflits qu'on va simplement arrêter de l'utiliser. Mais bon, enfin, c'est des hypothèses. Après, j'ai pas travaillé précisément là-dessus, donc je peux pas. Mais je pense que c'est des points très intéressants, effectivement, que vous soulevez. Ouais.
On serait pour rebondir sur ce que tu disais, Serge. Je reste un peu sur ma fin, parce que bon, vous faites une présentation d'outils assez récents. Par exemple, moi, je m'attendais à voir quelque chose qui est sorti il y a quand même pas mal d'années maintenant, du point de vue de l'histoire des écritures collaboratives, le manifeste du hacking de Mackenzie Wark chez Critical Secret, qui est un autre dispositif. D'ailleurs, vous en parlez pas. Là, vous parlez de pattes, c'est-à-dire de linéarité, où on est sur quelque chose qui est le rouleau. Chez lui, c'était la possibilité d'un codec à partir d'un plugin WordPress. Donc ça date à peu près, pour vous dire, en 2004-2005. Où, à partir de ce qu'il écrivait, alors là, c'est des centaines de personnes qui signaient ou qui ne signaient pas, intervenaient sur son texte, et Critical Secret a publié, et aux États-Unis ça a été publié comme ça, la totalité. C'est-à-dire par des notes, comme vous avez présenté à un moment donné avec Word, mais justement, ça se fait en ligne d'une façon collaborative depuis pas mal de temps. Et là où je reste sur ma fin, et c'est pour ça que je trouve que Serge, ce qu'il disait est assez juste, c'est que ces outils, il me semble que c'est pas seulement des problèmes de compétences, c'est des problèmes d'intentionnalité. Quand on parle dans un monde scolaire, qu'est-ce que c'est une intentionnalité face à la technique? Pour revenir, par exemple, sur ce que développe Stigler, quand même, ça fait 30 ans, il y a une transformation de notre intentionnalité par des outils qui fait que l'attention n'est pas la même. La fragmentation, par exemple, c'est François Bon qui travaille énormément là-dessus, sur pourquoi le blog a amené une écriture labyrinthique de fragments et on a perdu la linéarité de l'attention du fil narratif. Et qu'est-ce que ça produit à un moment donné, une technique? C'est pas simplement, à un moment donné, on poursuit nos recherches. Peut-être que la nature même de la recherche et de l'écriture d'une recherche est transformée en son fond. Parce que la temporalité, la spatialité impliquée par la technique, justement, amène une mutation de notre rapport à notre propre pensée. De même, quand on parle dans un cadre scolaire, et imaginons des collégiens, d'un coup, on leur permet, effectivement, d'écrire par ces petits fragments. Ce sautillement, qu'est-ce que ça implique pour eux, du point de vue de la saisie de l'écriture, du rapport à l'autre? Et par exemple, est-ce que vous êtes mis déjà sur un IRC ou tout ça, sur tous les MSN, le flux? Là, pour un chercheur, c'est très intéressant. Pourquoi? C'est de l'autisme, pour beaucoup. Et ils se regardent pas. Ou alors, ils répondent à quelque chose qui est déjà passé. Il faut remonter 5 minutes en arrière pour retrouver. Pourquoi? Parce que quand on est 30 et ça défile comme ça, à un moment donné, c'est simplement, on ne fait que donner un mot sans lire l'autre et en sachant qu'on ne sera pas lu. Et donc là aussi, on a une transformation de la communication, de l'outil communicationnel. Vous êtes en train de développer, par exemple, sur le fait de communiquer. C'est idyllique. Et là, je suis d'accord, on est face à une forme d'utopie technologique. Or, on s'aperçoit qu'il y a aussi ce revers. C'est quoi? C'est l'enfermement, l'incompréhension, la perte de repères, la diminution même de certaines règles du langage, de la syntaxe, de l'orthographe, et qui sont aussi les corollaires, quand même, du développement de ces outils et de la rapidité et de cette synchronicité. Hein. J'aimerais beaucoup voir réellement non retravaillé les prises de notes. Qu'est-ce qu'on peut en faire? par moment. Hein, ça serait très 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 intéressant de voir ça. Je pense qu'on aurait par moment des poèmes lettristes. Hein, au vu de la vitesse où tapent moyennement les gens sur deux doigts, je pense qu'on a affaire très rapidement à du lettrisme. Hein, donc une explosion syntaxique et grammaticale et orthographique dans la prise de notes. Mais je pense que ces questions, voilà, ça c'est des questions qui sont au cœur, à mon avis, de ce qui est impliqué. On n'est plus dans la découverte, parce que ça fait quand même pas mal d'années que ces outils existent. Donc, moi, je travaille depuis plus de 10 ans là-dessus. Par contre, on est sur quelque chose qui est le problème des effets. Et c'est pour ça que je parlais de Stigler, je termine là-dessus, parce que, par exemple, tout ce que développe en tant que recherche art, Ars Industrialis, avec Stigler, c'est justement sur quels sont les effets, sans être, eux, pessimistes, comme peut être un Paul Virilio, dans le catastrophisme, etc. Ils essayent de comprendre. Hein. Et par exemple, ça peut vous intéresser, vos outils, ils appellent ça une nouvelle organologie. C'est tous les bouquins qu'il est en train de développer en ce moment. Hein, il vient d'en sortir 2 ce mois-ci. C'est sur la nouvelle forme d'organologie à partir de gens comme Simondon, etc.
Bon, encore une fois, c'est une présentation que je fais à partir d'un usage personnel de ces outils-là. Et mon usage personnel, il n'est pas du tout dans un régime, disons, épistémique qui serait celui de la pensée... en flux, où moi c'est quelque chose que je comprends pas du tout en fait. Enfin, je comprends. Enfin, pour moi, une recherche et une pensée encore aujourd'hui, qu'elle soit philosophique, scientifique ou quelle qu'elle soit, c'est le développement d'un certain nombre d'idées cohérentes, logiques, s'enchaînant. Et je connais pas d'autre manière d'écrire la recherche. Donc, l'usage que je fais de ces outils-là, c'est un usage qui est dans ce sens. Simplement, et qui dévoile, enfin, ou non, disons, ce que j'ai voulu faire là, c'était dévoiler ou, disons, montrer, mettre au jour le processus matériel et les conditions matérielles d'écriture qui font que ce qui, en fait, le processus qui permet d'aboutir à des textes cohérents, à des pensées mises en forme, c'est un processus qui est extrêmement erratique, qui passe par l'écriture de fragments, le lien de ces fragments entre eux, la critique permanente des uns et des autres. Et ce que je voulais montrer, c'était comment est-ce qu'un certain nombre d'outils numériques nous permettaient de faire ça. Après, enfin, sincèrement, je crois pas du tout, mais sans avoir fait de recherche assez suffisante pour avancer cette thèse, je crois pas spécialement à l'idée justement d'un bouleversement épistémique majeur ou du fait qu'on est dans un tout autre cadre de pensée aujourd'hui. Enfin, je veux dire, enfin, ou en tout cas, je sais pas ce que ça pourrait être et je le comprends pas. Transformation de l'outil communicationnel. Oui, je suis d'accord, et en même temps, ce que vous dites, enfin, il faut faire attention, je crois, à pas confondre ce qui est le fait des outils dans une forme de déterminisme technologique et ce qui est le fait des populations qui utilisent ces outils. Enfin, quand vous dites qu'il n'y a plus, enfin, le langage, la grammaire, la syntaxe qui disparaissent dans l'usage de MSN, des messageries instantanées, etc. Enfin, la question primordiale quand on est sociologue, c'est mais qui utilise ça ? Enfin, est-ce que c'est pas le fait que les gens qui écrivent là sont des gens qui n'écrivaient pas avant justement ? Quand vous dites que la grammaire, enfin, vraiment disparaît, moi je pense que non, elle disparaît pas. Ça dépend qui utilise. Qui utilise ces logiciels. Et encore une fois, disons, c'est des outils qui effectivement ont un effet sur la manière dont on les utilise, mais qui sont aussi, qui dépendent aussi énormément de justement la personne et de l'usage qu'on en fait. Et l'usage qui en effet peut conduire justement à de telles dérives, si vous voulez, et peut conduire aussi à produire des choses beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus structurées. Enfin. C'est sur qui, enfin vraiment sur qui ça produit des effets et à quelles conditions ça peut produire des effets. C'est-à-dire à quel niveau d'usage, à quel niveau d'intensité et pour quel usage est-ce que ça produit des effets et dans quel sens, etc. Enfin, je pense que ce qu'il faut, c'est simplement comment dire, comprendre les modalités de la socialisation, disons, par les pratiques d'écriture numérique. Et je pense que, enfin, la remarque précédente, il me semble tordait un peu trop le bâton dans le sens de l'imposition d'effets. Disons que je pense pas que le numérique, les technologies numériques produisent des effets magiques comme ça, que le fait qu'on les utilise fait que le discours tout à, tout, enfin, pardon, non, mais je caricature.